Bon, alors on le sait, hein, Donald Trump n'a pas eu le prix Nobel de la paix, mais il y a trois économistes hier qui ont reçu le prix Nobel en économie. Et pour en discuter, on reçoit Michel Poitevin, professeur de sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour, Monsieur Chabot, ça va bien?
Ça va très bien. Alors, trois économistes, dont un Canadien, en fait, hein, qui ont reçu le prix Nobel de la paix, de l'économie, pardon.
Effectivement, qui sont-ils? On a Joël Mokyr, qui est né aux Pays-Bas, qui est maintenant professeur à l'Université Northwestern en banlieue nord de Chicago, là, sur un magnifique campus sur le lac Michigan. Philippe Aguillon, qui est français, puis lui est professeur au Collège de France et à la London School of Economics à Londres. Et puis enfin, Peter Howitt, notre Canadien, il est professeur à l'Université Brown. Pardon, mais il a fait une bonne partie de sa carrière à l'Université Western à London, en Ontario. Et le gros de ses recherches qui ont mené au prix Nobel ont été faits en sol canadien, on pourrait dire, à l'Université Western.
Bon, alors,
Alors,
comment on répartit ce prix-là? Parce que c'est un prix, mais il y a trois récipiendaires. Est-ce que c'est un tiers, ou comment ça fonctionne?
je pense que le comité Nobel, ça varie d'une année à l'autre, puis d'un prix à l'autre. Dans ce cas-ci, 50% du prix va au professeur Mokyr, alors que les deux autres se partagent 25%, le 50% restant en portions égales, 25-25 chacun.
OK.
Donc c'est pas égal. Donc j'imagine on souligne un peu les contributions relatives en modulant le prix selon l'importance de chacun, mais
Oui.
c'est clair que les trois ont eu un impact significatif là, dans leur domaine de
Mais
recherche.
justement, allons-y, justement, dans ce domaine de recherche. Ils reçoivent un prix pour quelle recherche exactement?
Je dirais le terme unificateur là, pour les trois chercheurs, c'est la croissance économique.
OK.
Puis croissance économique, c'est très large. Et puis, on peut en parler un peu. Ils ont mis l'emphase sur l'innovation. Mais ça, ce n'était pas nécessairement, sans jeu de mots, une nouvelle idée là, que l'innovation mène à la croissance. Mais essayons de mettre un peu en perspective, là. Si on regarde l'histoire de l'humanité, depuis à peu près 200 ans, on a une forte croissance économique. Le bien-être des populations s'est amélioré, l'espérance de vie, même la pauvreté là, dans les 30 ou 40 dernières années, la pauvreté extrême a diminué de façon incroyable dans le monde. C'est toujours un enjeu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais ça, c'est une très courte période, là. Si on regarde peut-être les 4 ou 5 000 ans avant, il n'y a pas eu beaucoup de croissance, même s'il y a eu certaines innovations. On peut penser à la roue, des techniques de construction ou d'autres, mais il n'y a pas eu de croissance comme on a en ce moment. Puis nos économistes ont réfléchi à ça, puis ont dit, OK, qu'est-ce qui nourrit la croissance? Quel est le rôle joué par l'innovation? Puis comment on peut mettre l'innovation de l'avant? Puis Joël Mokyr, le premier qui a eu 50% du prix, lui, c'est un historien de l'économie. Donc, il fait de l'histoire économique. Puis, il s'est penché notamment sur la révolution industrielle qui a eu lieu au milieu du 19e siècle, surtout en Angleterre.
Donc,
Il
on
a
va à
fait
peu près
son...
200 ans, là, c'est ça?
Exact.
OK.
Le 200 ans tout à l'heure, là, c'est ça, je le fixais à peu
OK.
près autour de la révolution
OK,
industrielle.
c'est bon.
Puis lui a regardé, bon, on a tous entendu des histoires du moteur à vapeur, l'énergie à vapeur, etc., qui a comme un peu lancé. Mais il y avait d'autres innovations avant. Puis il dit, comment ça se fait que là, ça, comme la sauce a pris, là, ou si vous voulez, le mélange a pris. Puis il s'est rendu compte que la croissance, ça dépend de l'innovation, mais aussi, donc ça qui sont des facteurs économiques, mais aussi de facteurs politiques, des institutions politiques. Et puis, donc lui, il appelait ça une culture de la croissance. Alors, c'est quoi une culture de la croissance? Bien, il dit, la science, ça va nourrir la technologie, mais en même temps, les nouvelles technologies vont alimenter la science. On va vouloir en savoir plus. Et donc, ça prend, pour qu'on ait de la croissance économique, c'est pas juste l'innovation, mais ça prend des institutions, par exemple l'éducation, les universités, mais aussi des institutions politiques qui vont valoriser la science. Puis là, il donnait comme exemple, il disait, on regarde où ça a tout commencé, c'est en Angleterre. Peut-être 200 ans avant la révolution industrielle, il y a eu la création de la Société royale à Londres, où là, on regroupait des scientifiques qui partageaient leurs recherches, puis qui réfléchissaient et tout. Puis ça, c'est important, ça a valorisé l'importance des sciences dans la société, puis aussi comprendre les innovations. Des fois, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui invente quelque chose, Mais il ne sait pas trop pourquoi ça marche. Il y a juste... Alors que les scientifiques, eux, ils vont essayer de comprendre pourquoi ça marche. Ça fait progresser le savoir.
On disait dans le temps des patenteux, puis après ça, bien, les scientifiques étaient là pour expliquer comment le patenteux avait réussi à faire son affaire.
Exactement. Et puis, en même temps, en Angleterre, il y avait des institutions politiques qui ont valorisé les innovations. Puis si parfois il y avait des réticences au niveau politique vis-à-vis des savants ou des innovations, bien, il faut changer de pays. En Europe, il y a un paquet de pays. Tu vas aller en France, en Italie, en Hollande, dans d'autres pays. Donc, il y a une espèce de concurrence entre les pays, je pense, qui a joué un peu un rôle, une diversité d'institutions. Puis les gens, les savants, bien, allaient où ils étaient le mieux accueillis. Et puis Mocky refait le parallèle avec la Chine, où les savants, à l'époque, là, où les savants, les innovations étaient souvent muselées parce qu'elles étaient vues comme des menaces au pouvoir établi. Puis ça, et lui, il expliquait, c'est une des raisons pourquoi la révolution industrielle a débuté en Angleterre ou en Europe, mais la Chine a stagné beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est le travail, je pense, c'est un travail important. Ça nous aide à comprendre un peu plus le processus ou pourquoi expliquer la croissance. Alors que les deux autres, nos deux autres, Peter Howitt là, et puis Philippe Aguillon, qui ont travaillé ensemble, notamment, ils ont plusieurs papiers ensemble, ils ont regardé le processus même de la croissance. Et puis, ils ont pas ressuscité, mais ils ont analysé un peu plus en détail une idée qui avait été approchée par Schumpeter au milieu du 20e siècle. Là. Ça avait été publié en 1954 à titre posthume, en fait, sur ce qu'il appelle la destruction créatrice. Et puis, ce qu'il voulait dire par là, c'est que dans toute innovation, il y a de la destruction. Veut pas, une innovation, c'est une nouvelle façon de faire, ou bien ce sont de nouveaux produits. Mais puis ça écarte les anciennes façons de faire ou les vieux produits qui font moins, entre guillemets, la job, là, qui répondent moins à nos besoins que les nouveaux produits. Mais lorsqu'on les écarte, ceux-là, bien, il y a des travailleurs, il y a des entreprises qui vont disparaître. Puis ça, c'est la destruction, mais en même temps, elle est comme créatrice parce que ce que ça apporte du renouveau. Puis ça, c'est bon pour l'économie. Alors, eux, ils ont comme vraiment analysé, Schumpeter avait décrit ça dans des termes un peu informel, mais Aguillon et puis Howitt ont vraiment développé des modèles puis étudié en détail ce qu'il y avait. Et puis, il y avait une chose intéressante, il y avait quand même un souci significatif pour le bien-être des travailleurs qui étaient affectés par l'émergence des innovations. C'est-à-dire que les gens qui sont les entrepreneurs, les travailleurs qui sont un peu écartés, bien, eux, ils disaient, bien, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. On ne peut pas les laisser comme ça. Il ne faut pas trop les protéger parce que sinon, il n'y aura plus d'innovation. Mais en même temps, il faut laisser les innovations, mais il faut aider ces gens-là à se replacer puis à se recaser au niveau économique.
Est-ce qu'on peut parler de maintenant, parce qu'il y a des choses qui vont changer avec le mot qui était sur toutes les lèvres, l'IA, l'intelligence artificielle?
Bien, c'est ça. Ça, c'en est une grosse innovation qui s'en vient, qui a été motivée par la connaissance, beaucoup de travail dans les universités. Il y a deux visions. Il y a des gens qui disent que ça va bouleverser nos économies. Il y en a d'autres qui disent que ça va prendre beaucoup de temps. Il y en a même qui voient un peu la destruction de notre monde, là, les gens plus à l'extrême. Puis on n'a pas de boule de cristal pour savoir où on se situe, mais c'est certainement une innovation qui est importante. Et puis ce que ces économistes-là nous diraient, bien, il faut laisser le processus peut-être l'encadrer un peu, le processus d'innovation, de destruction créatrice, mais mettre en place des bonnes politiques pour appuyer tout le monde là-dedans pour que personne ne soit laissé derrière.
Il nous reste 2 minutes. On a le temps de parler de la décroissance pour des causes environnementales.
Oui. Quand je parle de croissance, souvent, là, ça me fait penser justement, il y a des gens qui disent, bon, bien, on consomme trop, puis il faut favoriser la décroissance, mais... Je ne suis pas sûr que c'est le bon mot. On comprend un peu ce qu'il veut dire, mais quand on regarde pour un économiste ce que ça veut dire croissance, ça veut dire éducation, ça veut dire innovation, science et tout, je ne suis pas sûr qu'on va arrêter de s'éduquer. Je ne suis pas sûr qu'on va arrêter d'apprendre, de savoir. Alors, il faut faire attention quand on parle de décroissance. Moi, je pense que la croissance est bonne. Il faut l'encadrer. Puis même, c'est pas nécessairement incompatible d'avoir de la croissance économique et puis avoir un environnement qui est propre, mais il faut l'encadrer, il faut faire moins de choses polluantes et puis encourager plus, par exemple, les technologies vertes, les produits verts, d'autres façons de faire. Mais je pense que la croissance, on va toujours en avoir besoin, ne serait-ce que pour l'innovation, par exemple, dans le secteur médical. Là, on ne peut pas arrêter d'innover dans ce secteur-là.
J'allais dire justement que la croissance qui va avec l'environnement, c'est de l'innovation aussi. Alors,
Exactement. Si on regarde maintenant, on a beaucoup plus de façons de produire de l'énergie verte qu'on avait il y a 50 ans. Puis ils sont devenus beaucoup plus concurrentiels vis-à-vis par rapport au carbone ou au pétrole, ces nouvelles technologies vertes. On les applique de plus en plus.
Mais c'est toujours intéressant, Michel Poitvin, d'entendre vos réflexions et vos commentaires sur les grandes nouvelles de l'économie. On aura la chance de se parler bientôt. Merci beaucoup encore.
Merci. Bonne journée. Au revoir.